Bonjour à toutes et à tous, nous allons faire quelques commentaires et corrections sur ce sujet qui traite de l'arôme de vanille. La première partie, c'est la préparation d'une solution de référence avec une première question qui est écrire la formule brute de la vanilline, qui est le premier réactif ici présenté sur l'équation. Il faut faire attention sur ce genre de questions à bien recompter au moins deux fois. Bien sûr les atomes de carbone, mais là où il peut y avoir des erreurs entre guillemets bêtes, c'est sur le nombre d'hydrogènes. Attention au nombre de liaisons, par exemple dans le cycle là ici, quand il y a une liaison double avec une liaison simple, par exemple il reste plus qu'un hydrogène à mettre, donc attention à bien recompter le nombre d'hydrogènes. Donc lorsqu'on recompte avec attention, on trouve donc comme formule brute C8H8O3. La formule brute, on rappelle, hein, qui se donne par ordre alphabétique. Question 1.2. Identifier les deux couples acide-base mis en jeu lors de cette réaction. Vu que la vanille réagit avec l'ion hydroxyde HO-, on est sûr que la vanille, du coup, est un acide, ici, et donc est l'acide du couple avec sa base conjuguée. Donc C8H8O3, si C8H8O3 perd un H+, comme c'est un acide, il va donner sa base conjuguée C8H7O3-. HO- est une base à connaître par cœur, l'ion hydroxyde. Son acide conjugué, si HO- capte un H+, donne la molécule d'eau. Donc le couple très classique à connaître parfaitement, H2O slash HO-, on rappelle qu'on présente toujours l'acide devant la base. Question de la partie 2 maintenant, donc titrage de la solution de référence qui est notée S1. On a un suivi donc conductimétrique ici. Un peu plus peut-être compliqué que d'habitude, puisque ici on voit plusieurs ruptures de pente de conductivité, puisqu'il y a plusieurs phases. On nous indique précisément chacune des phases. Dans la première phase, on titre l'excès des ions hydroxyde. Dans la deuxième phase, on va titrer la base conjuguée de la vanilline. Et enfin, dans la troisième phase, on ajoute l'acide en excès. Dans la première question, on s'intéresse à la première phase du titrage, question 2.1, écrire l'équation de la réaction support du titrage qui a lieu lors de la première phase. Lors de la première phase, on sait qu'on titre un excès d'ion hydroxyde. Un des réactifs, ça va être HO-. Et on le titre à l'aide de quel réactif titrant? On nous dit l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est un acide fort à connaître par cœur. Acide fort, H3O+, ion oxonium. Donc on a une réaction classique entre HO-, base forte, et H3O+, acide fort. HO- va capter un H+ donné par H3O+ pour former H2O, et H3O+, en donnant ce H+, va aussi former de l'eau, ce qui donne HO- plus H3O+, donne 2H2O. Question 2.2. Déterminer graphiquement le volume d'acide nécessaire au titrage des ions hydroxyde. Alors, on connaît la méthode dans un titrage conductimétrique. On trace deux portions de droite qui passent au maximum au milieu d'un maximum de points sur chacune des portions. Et le point d'intersection de ces segments de droite, qui modélise donc l'évolution de la conductivité, va nous donner le point équivalent, et donc là on lit le volume d'acide correspondant qui est environ égal à 7,5 millilitres. Question 2.3, justifier la pente de la courbe lors de cette première phase. Alors c'est des questions aussi classiques de justifier la pente de la courbe. Pour cela, on sait qu'on a affaire à un titrage conductimétrique, et donc c'est la conductivité qui évolue, et donc il faut se demander qu'est-ce qui dans une solution va faire varier la conductivité. Donc ce sont les ions qui font varier la conductivité. Et donc, il faut faire un bilan de tous les ions, y compris, et c'est là, il ne faut pas les oublier, les ions spectateurs qu'on a pu, par exemple, oublier lors de l'équation de la réaction. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la vanilline, qui est une molécule, elle n'intervient pas, que l'acide chlorhydrique, qui est le réactif titrant, a pour formule donc H3O+ pour l'ion oxonium et Cl- pour l'ion chlorure. Et que les ions H3+ qu'on va apporter, ils vont être tout de suite consommés et ils vont consommer également les ions hydroxyde HO-. Ça veut dire que la quantité de H3O+, avant justement cette équivalence, elle va être nulle, et la quantité du hydroxyde, elle va diminuer, comme c'est un réactif qui est en excès avant l'équivalence. Mais les ions négatifs donc diminuent à cause de HO-, mais il y a une compensation par l'apport d'ions chlorure, Cl-, qui eux vont augmenter puisque c'est un ion spectateur apporté par l'acide chlorhydrique et personne ne réagit avec Cl-. Ce qui veut dire que ici, on va avoir à chaque fois un ion HO- qui va être remplacé dans la solution par un ion chlorure. Mais la conductivité molaire ionique, alors qu'ils ne sont pas connus par cœur, mais qui sont donnés, est bien inférieure à celle des ions HO-. Et donc, ça veut dire que la conductivité va diminuer, ce que l'on observe lors de la première phase. Passons maintenant à la deuxième phase du titrage. Donc l'équation nous la donne, donc c'est la base conjuguée de la vanilline, V-, qui réagit avec H3O+, toujours de l'acide chlorhydrique, pour donner donc VH plus H2O. Alors on nous demande, d'après l'allure de la courbe dans cette deuxième phase, d'indiquer si la conductivité ionique, la molaire de l'ion vanillinate, V-, est inférieure, supérieure ou égale à celle des ions chlorure, et de justifier. Alors quand on regarde là ici, donc l'équation, on voit qu'à chaque fois qu'un ion V- va être consommé, il va y avoir un ion chlorure qui va être apporté par l'acide chlorhydrique. Et on constate que la conductivité, elle augmente. Alors pas beaucoup, mais elle augmente légèrement, mais elle augmente quand même. Ce qui signifie que l'apport des ions chlorure fait augmenter la conductivité alors que la concentration des ions V- diminue. Ce qui signifie donc que la conductivité molaire ionique de V- elle est inférieure à celle de Cl-. Ce qu'on constate ici. Question 2.5. Déterminer le volume d'acide nécessaire au seul titrage de l'ion vanillinate en explicitant votre démarche. Alors il ne faut pas aller trop vite et bien regarder ce qui se passe. C'est qu'on a déjà versé 7,5 ml d'acide pour consommer l'excès d'ions HO- qu'on avait au départ dans la solution. Et donc, pour savoir juste le volume d'acide nécessaire au seul titrage de l'ion vanillinate, le volume qu'on a réellement versé en ce qui concerne l'ion vanillinate, c'est à la deuxième, entre guillemets, équivalence, donc qui se trouve vers 18,5 ml. Mais cette deuxième équivalence, à 18,5 ml, on n'a pas pris en compte le fait qu'on avait déjà versé 7,5 ml pour neutraliser, entre guillemets, les ions HO-. Ce qui veut dire que pour juste l'ion vanillinate, ici, atteindre cette deuxième équivalence, il a fallu verser 18,5, pardon, moins 7,5, c'est-à-dire 11 ml d'acide pour titrer seulement les ions V-, seulement les ions vanillinate. Donc on a ce volume par différence entre donc, le volume total versé à la deuxième rupture, la dopante, 18,5, moins les 7,5 qui ont servi à consommer tous les ions HO- en excès. Donc ce qui fait 11 ml d'acide pour la réponse. En déduire la valeur de la concentration CV- en ions vanillinate dans la solution S1, pardon, quand on a ce type de question, on sait qu'on se place toujours à l'équivalence et qu'on va faire un bilan à l'équivalence. Et ce bilan se fait toujours d'abord en quantité de matière. À l'équivalence, d'après l'équation support du deuxième titrage, on peut dire que la quantité donc de V- c'est égal à la quantité d'acide versé. Or, N égale C fois V, ce qui donne CAVA égale CV fois V1. Nous, on cherche la concentration de V- de l'ion vanillinate, ce qui va nous donner CA fois VA sur V1. Puis après, on doit tout avoir, puisque CA, c'est la concentration de l'acide chlorhydrique, c'est 1 fois 10 moins 1 mol par litre. Le volume d'acide versé juste pour les ions vanillinate, c'est 11 millilitres. On divise par V1 pour avoir donc le volume là, de départ de la solution, qui était de 20 millilitres, ce qui nous donne une concentration de 5,5 fois 10 moins 2 mol par litre. Voilà pour la deuxième partie et pour ce bilan de matière. Enfin, nous allons effectuer dans la troisième partie un dosage de la vanilline dans l'arôme alimentaire de vanille dite bourbon. Donc le protocole nous est indiqué, on nous dit qu'on réalise aussi un spectre d'absorption de la solution donc S2 qui a été préparée et on nous décrit comment, d'une solution S3 qui a obtenu en diluant 1000 fois la solution de référence S1 qu'on a étudiée justement dans cette deuxième partie, et que la concentration en vanille dans la solution S3, donc on nous dit, est de 5,3 fois 10 moins 5 mol par litre. On a les courbes, les spectres correspondants en dessous, avec la solution S3 en pointillé, la solution S2 en très plein. Question 3.1. On nous demande si les solutions S2 et S3 sont-elles colorées et de justifier. Alors pour cela, il faut regarder donc les spectres et regarder bien sûr le balayage en longueur d'onde qui a été effectué. On voit que les solutions S2 et S3 n'absorbent pas entre 400 et 800 nanomètres, c'est-à-dire n'absorbent pas dans le visible. Donc si elles n'absorbent pas dans le visible, cela signifie qu'elles sont incolores. Question 3.2. Estimez la masse de vanille présente dans 1 litre d'arôme alimentaire en supposant la loi de Bière-Lambert vérifiée par les solutions dans les conditions de l'expérience. Donc si la loi de Bière-Lambert est vérifiée, on sait que l'absorbance va être proportionnelle à la concentration donnée. Donc là ici, pour la solution S3, on peut lire une absorbance, on peut noter à 3, environ à 1,27. Pour la solution S2, on peut lire une absorbance à 2 aux alentours, donc de 0,60. Et comme on a une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration, qu'on peut écrire sous la forme donc A égale K fois C. On a donc A3 qui est égal à K fois C3 et A2 qui est égal à K fois C2. Et donc ça va nous permettre de calculer justement ben, la concentration qui nous manque par proportionnalité. Puisque du coup, A3 sur A2, ça va être C justement ici. De référence qui est noté Cval, la concentration en vanille dans la solution S3 sur donc C2, puisque le coefficient K est toujours le même, relation de proportionnalité. Et donc on peut trouver C2 ainsi en faisant un petit produit en croix, ce qui va nous donner C2 égale 5,3 10 moins 5 qui était donné, et par lecture on avait A2 et A3, 0,60 sur 1,27, ce qui nous donne 2,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Alors, on n'a pas tout à fait fini puisqu'on a la concentration, là ici molaire et on nous demande une masse. À noter que là on trouve 2,5 fois 10 moins 5 donc mol par litre et que du coup on vérifie que c'est à peu près la valeur donc trouvée en 2,6. Car on nous disait donc que Cval, c'était la solution S3 diluée d'un facteur 1000, ce qu'on voit, puisqu'on avait trouvé 5,5 10 moins 2 pour CV. Si on divise ça par 1000, on trouve donc 5,5 fois 10 moins 5, donc ce qui est à peu près la valeur donnée pour Cval. Alors pour terminer, on n'a pas tout à fait fini, mais on a presque fini, puisqu'on a une concentration donc polaire C2, on cherche une masse, donc on passe toujours par une quantité de matière pour lier les deux. On sait que n égale c fois v d'un côté et que n égale petit m sur grand M, ce qui nous donne que la masse M2 finalement vaut c2 fois v2 fois grand M. Donc c2, on vient de le déterminer grâce à la loi de Bière-Lambert, c'est 2,5 10 moins 5 mol par litre. La masse ici, donc molaire, est de 152 et le volume de vanilline était de 250 millilitres, ce qui nous fait une masse M2 de à peu près 9,5 fois 10 moins 4 grammes. Après, à noter donc que cette solution, la S2, avait été préparée à partir de 1 millilitre d'arôme alimentaire. Dans 1 litre, on a 1000 millilitres, donc on aura une masse 1000 fois plus grande dans l'arôme. Donc ce qui fait que la masse finale qui nous est demandée est égale à donc 1000 fois 10 puissance 3 fois la masse M2 qu'on vient de trouver, c'est-à-dire à peu près 0,95 grammes de vanille. Alors pour ce type de question où on a en italique toujours donc une phrase du type le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti, la démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Pour ce type de questions-là, il faut toujours commencer des raisonnements. On sait qu'on va utiliser la loi de Bierlambert, donc rappeler la loi de Bierlambert, essayer de trouver justement le lien avec la question posée. On sait qu'on veut une masse, grâce à la loi de Bierlambert, on va avoir une concentration. Quel est le lien donc du coup entre la masse et la concentration? On repasse par les quantités de matière, on sait que N égale C fois V, on sait aussi que N égale petit m sur grand M, ce qui nous permet après de trouver la masse, on fait attention s'il y a une dilution, etc., etc. Mais en tout cas, il faut toujours commencer à mettre des raisonnements. Si on ne met rien, on sait qu'on aura zéro. Par contre, si on commence des raisonnements à expliciter des lois, des formules, à commencer à manipuler tout ça, cela va être valorisé par rapport aux copies, bien sûr, où il n'y aura strictement rien de noté. Voilà, à bientôt.